Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes bien chers confrères, mes bien chers séminaristes, mes bien chers frères, oui, en effet, il y a 20 ans, jour pour jour, aujourd'hui, je me rendais à Fribourg auprès de Mgr Charrière, évêque de Fribourg, pour lui demander le résultat de son étude et de l'enquête qu'il avait dû faire de nos statuts, de nos constitutions que je lui avais soumises au début du mois de juillet. Il avait donc eu 4 mois pour examiner ces constitutions. Et j'avoue que je me rendais à l'évêché avec quelque appréhension. Le temps était déjà bien défavorable à toute œuvre de la tradition. C'est pourquoi je me demandais bien ce qu'allait me répondre Son Excellence Mgr Charrière. Or, à ma stupéfaction et à ma joie, évidemment, il me dit immédiatement, mais c'est entendu, je vais vous signer ça immédiatement. Il fit appeler son secrétaire, lui demanda les documents, la lettre était prête, et Mgr, devant moi, signa l'acceptation de nos statuts et de nos constitutions. J'avoue que c'était pour moi un petit miracle. Et je m'imaginais quelle allait être la réaction de nos aînés, de nos premiers séminaristes, devant cette acceptation de la fondation de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X d'une manière officielle. En effet, lorsque j'arrivais à la rue de la Vigneta et que j'annonçais ça aux chers confrères qui étaient présents, il y en a encore ici qui sont présents, ce fut une explosion de joie et d'étonnement. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X était reconnue officiellement par l'Église locale de Fribourg, par Son Excellence Mgr Charrière. Et quelque temps plus tard, ces mêmes statuts envoyés à Rome avec l'approbation de Mgr Charrière recevaient aussi l'approbation officielle du cardinal Wright, préfet de la congrégation du clergé, et sous-signé par le secrétaire de la congrégation en ce temps-là, Mgr Palazzini, aujourd'hui cardinal Palazzini. Par conséquent, d'une manière officielle, le cardinal Wright et le cardinal maintenant Palazzini reconnaissaient le bienfait de ces statuts et nous encourageaient à continuer l'œuvre déjà commencée. Quelle grâce pour la fraternité d'avoir eu ces reconnaissances officielles. Et je pense que si les canonistes se penchaient sur le document qui nous a été donné par le cardinal Wright, ils pourraient conclure légitimement que nous sommes reconnus de droit pontifical, car il s'agissait en vérité d'un décret de louange de nos statuts et de nos constitutions, officiellement reconnus par une congrégation romaine. Et, mes chers amis, ne voyez-vous pas, entre cette reconnaissance officielle de la fraternité et le jour de la Toussaint, un lien mystique profond, extraordinaire, qui correspond parfaitement à ce que la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a pour but? C'est dans son essence même, je dirais, de rechercher la sainteté. Non seulement de rechercher la sainteté, mais de faire des choses saintes. Qu'est-ce donc que le prêtre ? Chers amis, qu'est-ce que le prêtre ? Sacerdoce, sacra danse, celui qui donne les choses saintes. Sacrificium, sacrum faciens, celui qui fait les choses saintes. Voilà ce qu'est le prêtre. Et nous recevions l'approbation de notre fraternité sacerdotale en ce jour de la fête de la sainteté. Chers amis, n'oublions pas ces circonstances. Rien n'est fait par hasard, par la Sainte Providence. Je suis bien sûr que les saints anges se réjouissaient de là-haut de voir cette coïncidence entre la reconnaissance de cette fraternité faite pour faire le saint prêtre qui allait donner la sainteté, communiquer la sainteté aux fidèles en ce beau jour de la fête de la Toussaint. Alors tirons un petit peu les conclusions, si vous voulez bien, de ce rapprochement. Il est donc voulu par la Providence que nos prêtres soient saints. Qu'est-ce que la sainteté, sinon la sainteté substantielle, sinon le Verbe de Dieu lui-même ? Verbum Dei. C'est l'agneau qui est désigné dans l'Apocalypse et qui est entouré par les 24 vieillards et par une foule innombrable d'anges et d'élus qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu ». Il s'agit bien du Verbe et du Verbe incarné. Or, que font les prêtres ? Sinon, communiquer le Verbe de Dieu. Communiquer ce Verbe saint, le communiquer par la parole, le communiquer par la prédication, se faire l'écho de la parole même de Dieu, de la parole substantielle de Dieu et de toutes les paroles que le Verbe incarné aura prononcées pendant son séjour ici-bas. Voilà le rôle du prêtre, être l'écho du prophète. Fidèlement, nous devons transmettre ces paroles à tous les fidèles, à tous ceux qui veulent être vraiment des fils de Dieu, à ceux qui veulent vraiment profiter de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous communiquons donc ce Verbe qui est la parole de Dieu, mais nous le communiquons aussi le Verbe fraîcheur, et verbum caro factum est. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Et l'œuvre par laquelle il a communiqué sa grâce, par laquelle il a communiqué sa vie, l'œuvre essentielle, vous le savez bien, c'est le sacrifice de la croix. Communiquer le Verbe par la parole de Dieu, communiquer le Verbe dans le saint sacrifice de la messe, le Verbe fait chair. N'est-ce pas là le rôle du prêtre ? Communiquer Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie après l'avoir reproduit, réactué le sacrifice de la croix et fait venir Dieu sous les espèces du pain et du vin et le communiquer aux fidèles. Quel magnifique exemple, n'est-ce pas ? Quelle tâche extraordinaire! Oui, le prêtre est vraiment fait pour les choses saintes. Alors il doit être saint lui-même. Et vous me direz peut-être, et certaines personnes me diront, mais à quoi bon la fraternité sacerdotale Saint-Pédis? Ça avait-elle vraiment une utilité en ce temps-là? N'y avait-il pas encore dans le monde et de saints évêques et de saints prêtres? Et hélas, hélas. Nous étions obligés de constater la révolution qui est ce qui s'était fait et qui était en train de s'accomplir tous les jours davantage. Nous étions en 1970, il y avait déjà 5 ans que le Concile avait fermé ses portes et avait appliqué des réformes désastreuses, désastreuses, car en définitive, qu'est-il arrivé aux prêtres des paroisses, à ces pauvres prêtres, dont beaucoup d'ailleurs n'avaient plus de prêtre que le nom? Ils l'ont prouvé en abandonnant leur sacerdoce et en rejoignant le monde. Mais beaucoup d'entre eux encore avaient gardé la foi, avaient gardé le désir de célébrer saintement leur sacrifice de la messe. Eh bien, on leur a arraché des mains, en quelque sorte, et le saint sacrifice de la messe, et leur catéchisme. Donc, cette parole de Dieu qui est inscrite dans nos catéchismes traditionnels, qui n'est que l'écho de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, on leur falsifiait le catéchisme. On leur demandait d'enseigner une autre foi, qui n'est plus la foi catholique. Imaginez la douleur de ces prêtres. Et on les force encore aujourd'hui à enseigner ces choses contraires à leur foi, contraires à la foi catholique, à tous les enfants de leur paroisse. Et on leur a arraché le sacrifice de la messe. On l'a transformé. On l'a rapproché bien plus de la scène protestante que du vrai sacrifice de la messe catholique. C'est évident. Cette transformation a été aussi pour beaucoup de ces prêtres une douleur causée, leur a causé une douleur profonde. Beaucoup d'ailleurs se sont retirés. Des évêques se sont retirés, ont donné leur démission pour ne pas être obligés de mettre en pratique cette révolution. Et beaucoup de prêtres ont quitté leur paroisse, ceux qui le pouvaient, ont donné également leur démission. J'en ai vu pleurer, pleurer de douleur. Et je suis persuadé, je l'ai déjà dit souvent, qu'au moins les deux archevêques de Madrid et de Dublin sont morts de douleur devant cette réforme affreuse qui changeait la nature du prêtre, le prêtre n'ayant plus à offrir vraiment le sacrifice, mais simplement à faire une eucharistie, à faire un partage à la méthode protestante, et n'ayant plus à enseigner le véritable catéchisme tel qu'il l'avait appris lui-même dans son enfance, c'était poignarder les cœurs des prêtres. La plus forte raison des évêques qui devaient, qui savaient qu'ils étaient en quelque sorte responsables de ce qui se passait dans leur diocèse. Oui, cette réforme terrible a été une révolution qui continue, qui n'est pas terminée. Alors dites-moi, mes chers amis, et bien chers frères, si l'institution de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X était inutile, était vaine. Elle est précisément cette contre-révolution par l'affirmation de la foi catholique de toujours. Et elle est la contre-révolution par l'offrande du vrai sacrifice de la messe, qui est la source de la sainteté, source de la vie. Car avec le sacrifice de la messe, il faut voir les 7 sacrements, qui sont comme le rayonnement de la messe, qui en sont ou la préparation ou une conséquence, mais qui sont liés essentiellement au saint sacrifice de la messe, profondément au saint sacrifice de la messe. C'est toute la vie de Jésus, la vie du Verbe de Dieu qui nous est communiquée par la Sainte Messe et par les Saints Sacrements, et à plus forte raison par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans la Sainte Eucharistie, centre de notre religion. Oui, la naissance de la fraternité sacerdotale Sapidis a été certainement voulue par la Providence. Et j'en suis d'autant plus convaincu que j'ai été, je dirais, un instrument, peut-être parfois un peu indocile, car il m'est arrivé au cours de cette année 69-70 de me demander s'il ne fallait pas abandonner le projet. Et si je n'avais pas eu à mes côtés mes anges gardiens, c'était l'abbé Olanier et l'abbé Dissier de Malray, qui m'ont réconforté et qui m'ont dit, comme les saints anges, je pense, qui assistaient notre Seigneur au Jardin des Oliviers, qui ont inspiré à notre Seigneur, fiat voluntas tua. Et ainsi, la fraternité s'est faite et s'est réalisée. Et je pense qu'après 20 années d'existence, tous ceux même qui, au dehors de la fraternité, ne la suivent pas ou même ne sont pas d'accord avec elle, sont bien obligés de reconnaître qu'elle a été bénie de Dieu. La preuve, ceux qui sont venus nous visiter officiellement de Rome et qui ont consigné par écrit sur le livre d'or du séminaire leur admiration de l'œuvre qui se réalisait ici dans ce séminaire. Oui, la fraternité a été voulue par le bon Dieu et d'innombrables grâces ont été données. Et je pense que c'est là la grande consolation au milieu des immenses épreuves qui sont les nôtres, car de nous sentir incompris et même rejetés par les autorités officielles de l'Église, par celles qui actuellement occupent les postes de commandement, c'est une douleur immense. Douleur pour la vitalité de l'Église, douleur parce que nous voyons les âmes se diriger vers l'enfer en foule, à cause de l'apostasie qui règne à Rome. C'est une véritable apostasie. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus honoré comme il devrait l'être, étant donné qu'il est Dieu, qu'il doit régner, et qu'il est le seul qui doit régner, le seul qui est droit à la véritable religion et à la religion. Nous voyons cette apostasie de l'esprit, par la transformation de la vertu de foi, qui n'est plus une vraie foi, qui est un sentiment de la subconscience, qui se développe à l'intérieur de l'homme et qui n'a rien à voir avec la vraie foi, par la désobéissance de la volonté qui remplace la loi de Dieu, par la conscience humaine, donc par l'homme. Dieu est remplacé par l'homme, aussi bien dans l'intelligence que dans la volonté, et cela c'est un péché grave, un péché permanent, qui s'exprime par exemple dans la laïcité des États, voulue par le Saint-Siège. La laïcité, c'est l'athéisme public. Et c'est un péché grave. Et ces États qui professent désormais cet athéisme officiel basé sur la déclaration des droits de l'homme sont dans un état péché mortel continuel. Et légalisent le péché. Puisqu'ils ont rejeté la loi divine, ils font des lois maintenant qui sont contraires à la loi divine et qui mettent des millions d'âmes en état de péché permanent. Permanent. La loi du divorce met en état de péché mortel permanent des gens qui sont responsables de leur divorce. L'avortement met en état de péché mortel tous ceux qui concourent à l'avortement. Et ainsi de suite. Nous pourrions continuer la liste des lois qui mettent en état de péché habituel des millions d'âmes. Et cela dans le monde entier, dans tout le monde chrétien. Par conséquent, nous pouvons dire en vérité que ces foules se dirigent vers l'enfer. s'il ne retrouve pas la grâce au moment de la mort, espérons-le, ils vont en enfer. C'est bien ce que disait, ce que montrait Notre-Dame de Fatima aux enfants. Alors, ces foules qui partent, qui descendent en enfer. Et cela, voulu, organisé, par toute une révolution, et une révolution qui a commencé particulièrement dans les universités, parmi les esprits soi-disant éclairés, qui ont remplacé la pensée de Dieu et l'être de Dieu par leur pensée personnelle, qui ont remplacé la voix divine par leur conscience. C'est le péché radical. C'est l'exclusion de Dieu, de l'esprit et des volontés et des âmes. Et ce péché a commencé dans les universités. Et ensuite, s'est répandu dans la Révolution, la Constitution des droits de l'homme, et maintenant, ces constitutions des droits de l'homme sont à la base de toutes nos sociétés, socialistes, maçonniques. Mes chers amis, vous voyez immédiatement l'importance de votre rôle. Car vous êtes ici comme dans une université. Et vous devez par conséquent prendre conscience de ce péché grave qui est le péché de l'humanité aujourd'hui, de tous ceux qui pensent, malheureusement, de la plupart. Alors à vous de reprendre le chemin de Dieu. À vous de montrer que les esprits sont faits pour Dieu, pour l'être, pour le réel, et non pas pour la pensée humaine. À vous de montrer que la conscience est faite pour la loi et qu'elle n'est pas faite pour elle-même. À vous de montrer que la loi de Dieu doit remplacer les constitutions des droits de l'homme qui sont une insulte à Dieu, et ainsi de suite. Quel travail! Quelle œuvre vous avez à accomplir, mes chers amis! Vous êtes ce petit reste, mais qui tient le flambeau hardiment. N'ayez pas peur de le montrer. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes prêtre. Prêtre traditionnel. Prêtre comme l'Église a voulu les faire toujours. Prêtre pour la vérité, prêtre pour la sainteté. Ah, quelle belle tâche, quelle belle croisade vous avez devant vous. Le bon Dieu vous fait naître à un moment, à une époque de l'histoire de l'humanité qui est enthousiasmante pour des jeunes comme vous. Absolument, comme l'était pour les Maccabées lorsqu'ils ont quitté la société corrompue d'Israël et qu'ils étaient quelques-uns. Judas Maccabée s'est trouvé avec 800 soldats devant une armée de 20 000. Et il les a battus. Eh bien, ayez confiance, mes chers amis, Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera pas plus qu'il nous a abandonnés au cours de ces 20 années. Il ne vous abandonnera pas dans le futur non plus, parce que Dieu se veut lui-même. Dieu ne veut pas disparaître. Il est Dieu. Il veut demeurer Dieu. Non seulement au ciel, mais ici-bas. Et c'est pourquoi il veut des soldats dans son armée. Et je voudrais vous lire en conclusion les quelques paroles que l'évêque adresse aux prêtres à la fin de l'admonition de l'ordination, qui sont tellement bien adaptées à la conclusion, je dirais, de ces 20 années et en même temps à la préparation des années futures que le bon Dieu voudra bien donner à la fraternité. Appréciez ce que vous faites, imitez ce que vous opérez, en tant que par la célébration du mystère de la mort de notre Seigneur, vous vous efforcez de faire mourir en vous tous les vices et toutes les concupiscences, que vos paroles soient un remède spirituel pour le peuple de Dieu, que la bonne odeur de votre vie fasse les délices de l'Église de Jésus-Christ, que vos discours et vos exemples soit l'édification de la maison de Dieu, afin que le Seigneur ne nous punisse point un jour, nous, pour vous avoir admis à ce ministère, vous pour y avoir été élevés, mais plutôt nous en récompense, qu'il daigne nous accorder par sa grâce, ainsi soit-il. Demandons à la Vierge Marie, Mère du prêtre éternel, et notre mère de nous garder dans la sainteté de notre sacerdoce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes bien chers amis, mes bien chers frères, la fête de la Toussaint, l'ordination qui va avoir lieu dans quelques instants, et l'anniversaire de la fondation de la fraternité sont autant d'événements que nous fêtons aujourd'hui et qui nous offre l'occasion de méditer d'une manière toute particulière sur ce qu'est la sainteté et particulièrement sur ce qu'est la sainteté du sacerdoce. En effet, s'il est une raison de donner et de choisir ceux qui doivent offrir les saints mystères, c'est bien leur sainteté. S'il est un motif aussi que nous pouvons évoquer au sujet de l'anniversaire de la fondation de la fraternité, et en faisant cela, nous évoquerons tout simplement le but même de la fraternité, qui est d'abord et avant tout de sanctifier les prêtres, de donner à l'Église de saints prêtres. Et je pense que si nous nous adressions à tous ceux qui aujourd'hui jouissent de la gloire du ciel, tous les saints qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ, à la très sainte Vierge Marie, à tous les saints anges, et qui chantent la gloire de Dieu et de notre Seigneur, si nous leur demandions à chacun d'entre eux quel a été au cours de leur existence terrestre le moyen, la voie de leur sanctification, ne fait aucun doute qu'ils nous répondront: la voie de la sanctification, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, la voie de la perfection, la voie de la sainteté, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il est vrai que c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le moyen de notre sanctification, voyez immédiatement qu'elle doit être aussi pour le prêtre la raison et la voie de sa sanctification. Lui, dans la définition même, et d'offrir les saints sacrifices, et d'offrir par conséquent, dans la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom propre, la continuation de son sacrifice de la croix. C'est donc là que le prêtre trouvera la raison fondamentale, essentielle, continuelle de sa sanctification. Et ce sera aussi pour lui le moyen de sanctifier le peuple fidèle. Et pour le peuple fidèle, la voie de la sanctification n'est pas autre que celle du prêtre, c'est aussi la voie de la croix. Et c'est en effet saint Paul qui nous enseigne d'une manière si admirable ce qu'est le prêtre dans son chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Saint Paul dit « Omnis pontifex, ex minibus assumptus, tout prêtre choisi parmi les hommes, pro minibus constituitur, inis que sunt ad deum. » Il est constitué, il est fait pour les hommes en ce qui regarde les choses de Dieu. « Ut offerat dona et sacrificia pro peccatis » pour qu'il offre les dons et pour qu'il fasse le saint sacrifice pour la rédemption des péchés. Et il ajoute même, et comme il est lui-même entouré d'infirmité, comme ipse secundatus est infirmitate, il doit des bêtes condolérer, isque ignorante et terrante, il doit se pencher et compatir et sympathir avec ceux qui sont dans l'erreur et avec ceux qui sont dans l'ignorance. C'est là tout le secret du sacrement de pénitence. Le prêtre est donc fait pour offrir le saint sacrifice et répandre les grâces du sacrifice, particulièrement par le sacrement de pénitence, se pencher sur ceux qui sont dans l'erreur et dans l'ignorance. Et comme il est aussi lui-même pécheur, il doit pour lui, pour ses propres péchés, et non seulement pour les péchés du peuple de Dieu, il doit aussi offrir le saint sacrifice. Voyez qu'en quelques lignes, saint Paul a résumé ce qui fait l'essence même du prêtre. Alors, mes chers amis, vous qui, dans quelques instants, allez monter à l'autel pour recevoir une ordination qui vous prépare à offrir ces saints mystères de Dieu, ces saints mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, méditez ces paroles de saint Paul. Sachez que vous aussi, vous êtes faibles. Sachez aussi que vous êtes pécheurs. Et pourtant, le bon Dieu vous a choisi. C'est encore saint Paul qui le dit. Que le prêtre ne s'est pas choisi lui-même, mais qu'il a été choisi comme Aaron, comme les Lévites. Choisi par Dieu, par conséquent, pour offrir les saints sacrifices, pour offrir le vrai sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous, mes chers amis, à recevoir la grâce du sacerdoce afin d'être de vrais prêtres, afin d'être de saints prêtres, tels que l'Église les veut. Or, qu'avons-nous vu depuis une vingtaine d'années, et même déjà auparavant, car il faut bien reconnaître que la notion véritable du sacerdoce et que le but même pour lequel le prêtre est prêtre commençait déjà bien avant le Concile à disparaître de l'esprit même des prêtres. Hélas, combien de prêtres célébraient le saint sacrifice de la messe sans plus savoir exactement ce qu'ils faisaient, sans se rendre compte, comme d'une manière un peu machinale, comme un simple fonctionnaire de l'Église. Alors que c'est là que se trouve toute la grandeur du prêtre, toute sa raison d'être, toute sa joie, toute sa consolation, toute sa force se trouve dans le saint sacrifice de la messe. Si le prêtre ne réalise plus ces choses-là, alors ce n'est plus un prêtre. Or, au lieu de revenir à ces notions fondamentales de l'Église, qui sont la pierre et le roc fondamental de l'Église, on a voulu introduire un esprit nouveau. Un esprit nouveau qui, loin de faire retrouver au saint mystère leur véritable signification, a rapproché ces mystères de la scène protestante, détruisant ainsi ce qu'il y avait de mystérieux, de grand, de divin, de sacré dans le saint sacrifice de la messe, en rapprochant notre sacrifice, le sacrifice de notre Seigneur, de ce sacrifice ignoble des protestants. C'était dénaturer le sacrifice de la messe. Et alors nous avons pu constater, nous constatons tous les jours les effets de ce changement de la pensée des prêtres, changement qui s'est introduit sous l'influence des modernistes qui ont envahi l'Église, car ce n'est pas l'Église qui a fait une chose semblable. Ce sont les modernistes et les progressistes qui ont envahi l'Église et qui ont imposé aux chrétiens une idée du sacrifice de la messe qui n'est plus la véritable idée du sacrifice de la messe, qui ont dénaturé le sacrifice de la messe. Et c'est pourquoi nous avons résisté. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des schismatiques. Nous ne sommes pas des hérétiques. Nous résistons. Nous résistons à cette vague de modernisme qui a envahi l'Église, à cette vague de laïcisme, de progressisme, qui a envahi l'Église d'une manière indue, d'une manière injuste, et qui a essayé de faire disparaître de l'Église tout ce qu'il y avait de sacré, tout ce qu'il y avait de surnaturel, de divin dans l'Église, pour le réduire à la dimension de l'homme. Eh bien, nous résistons et nous résisterons. Non pas par esprit de contradiction, non pas par esprit de rébellion, mais par esprit de fidélité à l'Église, par esprit de fidélité à Dieu, par esprit de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, par esprit de fidélité à tous ceux qui nous ont enseigné notre sainte religion, par esprit de fidélité à tous les papes qui ont maintenu la tradition. Et c'est pourquoi nous sommes décidés à tout simplement continuer, persévérer dans la tradition, persévérer dans ce qui a sanctifié les saints qui sont au ciel. Faisant cela, nous sommes persuadés de rendre un service immense à l'Église, à tous les fidèles qui veulent garder la foi, à tous les fidèles qui veulent recevoir vraiment la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il semble que peu à peu, certaines autorités de l'Église commencent à se rendre compte de manière plus objective qu'il y a eu de graves erreurs d'accomplis et qu'il serait peut-être temps, sinon de revenir totalement aux choses anciennes, ce qui serait l'idéal, mais de réformer leur réforme. C'est déjà un premier pas. Hélas, il a fallu pour cela 12 ans de conséquences lamentables de toutes ces réformes qui ont été introduites dans l'Église. Abandon des prêtres, abandon des religieux et des religieuses, ruine des noviciats, ruine même de la sainteté religieuse, ruine des églises, apostasie de combien de fidèles. Il a fallu que tout cela s'étale sous nos yeux pour qu'enfin on commence lentement à prendre conscience du ravage qu'a causé cette réforme qui n'a pas été faite par l'Église, mais qui a été faite par ceux qui étaient imbus d'idées contraires à celles que l'Église a toujours enseignées. Je relisais ces jours derniers l'encyclique Humani Generis du pape Pie XII, qu'il a prononcé en 1950. Cette encyclique n'est ni plus ni moins que la condamnation de tout ce qui s'est fait après le Concile. Il est impossible d'admettre ce qui s'est fait après le Concile et d'admettre en même temps que le pape Pie XII avait raison dans son encyclique Humani Generis. Alors pour nous, nous avons fait notre choix. Nous obéissons au pape de toujours. Et nous sommes persuadés, il n'est pas possible que même le pape régnant ne soit pas, dans le fond de son cœur et de son âme, attaché à tout ce que les papes ont dit avant lui, tous ses prédécesseurs. Même si nous voudrions que Il abolisse ces réformes d'une manière plus rapide. Cependant, nous sommes persuadés qu'en étant justement d'accord avec tous les prédécesseurs du pape régnant, et je devrais exclure malheureusement ses deux prédécesseurs immédiats, mais en étant pleinement d'accord avec ses prédécesseurs, nous sommes persuadés de rendre un grand service à l'Église et de nous trouver dans la voie de la vérité. Et c'est cela, je pense, que nous devons voir dans les fêtes d'aujourd'hui. Dans cette ordination qui est une ordination faite comme celle de toujours. Dans la fête de la Toussaint, où tous les saints nous enseignent de demeurer dans la tradition, de faire ce qu'ils ont fait pour se sanctifier, de faire ce qu'ils ont fait pour aller au ciel. Et c'est ce que nous faisons, tout simplement. Nous refaisons les mêmes rites, les mêmes gestes, nous récitons les mêmes prières, nous adorons le même Dieu, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons en notre catéchisme de toujours, comme nous même ont cru, et c'est ce qui leur a valu d'être au ciel. Alors nous aussi, nous voulons sauver nos âmes et nous voulons suivre nos ancêtres dans la foi et être martyrs avec eux s'il le faut, comme ceux qui l'ont été pour professer leur foi. Et enfin nous voulons, parce que la fraternité a été le moyen de maintenir la tradition, nous voulons maintenir les buts de la fraternité, qui est tout simplement de continuer l'Église. Continuer l'Église afin de sauver les âmes, afin de donner de saints prêtres aux âmes des fidèles qui attendent avec impatience de retrouver de vrais et de saints prêtres. Voilà, mes chers amis, ce que nous enseignent ces cérémonies et les fêtes que nous fêtons aujourd'hui. Je voudrais que vous trouviez dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela sous la vigilance et sous la garde de la très sainte Vierge Marie, qui a si bien compris le mystère de la croix, qui a vécu le mystère de la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière toute particulière, avec une sagesse infinie. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous faire comprendre profondément ce qu'est le mystère de la croix. Et nous y trouverons toutes les solutions, mes chers amis, toutes les solutions. Lorsqu'au cours de votre existence, des problèmes se poseront à vous, problèmes de toutes sortes, tous les problèmes humains possibles et imaginables, ne cherchez pas ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que vous trouverez la solution des problèmes individuels de chaque personne en particulier. Les âmes viendront se confier à vous, viendront vous exposer leurs problèmes, problèmes de toutes sortes. Vous leur direz toujours, regardez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans cette croix, qui est le grand mystère qu'ont enseigné les apôtres, et particulièrement l'apôtre Saint Paul, bien dans cette croix se trouve la solution de tous les problèmes. Parce que la croix, c'est la charité, l'amour jusqu'au sacrifice. Mais tous les problèmes se résolvent dans la charité portée jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à la mort s'il le faut. Dernièrement, précisément au cours de ce synode, me trouvant à Rome, ayant l'occasion de rencontrer quelques cardinaux qui discutaient ces problèmes du mariage, problèmes qui apparaissent aujourd'hui beaucoup plus difficiles qu'autrefois. Il semblerait bientôt que aujourd'hui seulement des problèmes se posent pour les gens mariés, pour ceux qui sont dans les liens du mariage. Et j'ai eu l'occasion de leur dire, mais sans sacrifice, il est impossible de résoudre les problèmes du mariage. Sans la croix, il est impossible de résoudre les problèmes du mariage. Comme tous les autres problèmes, d'ailleurs, pas seulement celui-là. Mais exclure le sacrifice du mariage, c'est exclure l'idée chrétienne même du mariage. Il est inutile de discuter pendant des semaines sur la famille chrétienne en excluant le sacrifice de la famille chrétienne. C'est laisser la vraie solution, le vrai remède à part, et par conséquent demeurer sans solution. Qu'il s'agisse des problèmes économiques, qu'il s'agisse des problèmes sociaux, qu'il s'agisse des problèmes politiques, qu'il s'agisse des problèmes de ceux qui sont alités sur des lits d'hôpitaux, il n'y a qu'une solution, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la justice telle que la réalise notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu, rendre au prochain ce qui est dû au prochain. C'est ce qu'a fait notre Seigneur sur sa croix. Il n'y a pas de plus bel acte d'amour de Dieu et de le plus bel acte d'amour du prochain qui ait été fait en dehors de celui de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Et tous les problèmes se résolvent alors dans cette ligne de la croix du sacrifice. Voilà, mes chers amis, ce que doit être votre programme. Programme de votre séminaire, programme aussi de votre sacerdoce. Et alors, vous serez vraiment des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous serez vraiment ce qu'on dit du prêtre et ce qui doit être dit du prêtre, que le prêtre est un autre Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.